dans les halakhot d'Avelut, de deuil. Michel Slovetchik fait une différence entre Avelut de Yachid et Avelut de Rabim. Il s'agit de la chose suivante. Si quelqu'un perd un proche, alors il est endeuillé. Ça s'appelle Avelut, deuil d'un Yachid, d'un individu. L'Avelut que nous pratiquons au titre de la destruction du Beit HaMikdash, ça s'appelle Avelut de Rabim. C'est un deuil de collectivité, un deuil collectif. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a affaire à un deuil privé, un deuil individuel, alors le deuil commence très fort, ça veut dire avec beaucoup de restrictions. Le deuil commence à partir du moment où on a recouvert le cercueil, la terre. Il commence à ce moment-là les 7 jours de deuil. Et puis ensuite, ça va aller en s'allégeant. On va avoir les 30 jours. Puis ensuite, on va avoir... Pour tout le monde, ça s'arrête au bout de 30 jours, sauf pour un parent, c'est-à-dire un enfant pour ses parents. Enfant, ça veut dire, même s'il est adulte, bien sûr. Un enfant pour ses parents, ce n'est pas du tout symétrique, c'est seulement un enfant pour les parents. Le deuil dure 1 an, mais il est bien sûr, pendant cette période, c'est plus léger que ça ne l'était dans les 30 jours et encore plus léger que ça n'était durant les 7 jours de deuil. Ça veut dire que la pratique du deuil, si vous voulez, est une pratique qui va en s'allégeant, en quelque sorte. Les contraintes, les restrictions sont de plus en plus légères. Dans le deuil qui nous occupe ici, qui est le deuil collectif pour la destruction du Beit HaMikdash, c'est exactement le contraire qui se passe. Ça a commencé par les 3 semaines, Shiva Asar Beit HaTammuz, les 3 semaines, c'est un deuil léger, et ensuite on entre dans les 9 jours, et ensuite dans la semaine qui contient Tisha B'Av, puis ensuite il y a Erev Tisha B'Av, et enfin un point culminant, Tisha B'Av. Et là, ça va en étant de plus en plus sévère, de plus en plus de contraintes. Alors, c'est évidemment une chose qu'il faut bien sûr remarquer, et il faut se comprendre un peu. Pourquoi effectivement, entre finalement ces deux processus de deuil, pourquoi ils ne fonctionnent pas de la même manière? Alors, c'est en fait parce que le but de l'exercice, le but du deuil n'est pas du tout le même. Quand on a affaire à un deuil privé, alors la période... Enfin, les différentes périodes de deuil, quelle est leur fonction en réalité? Leur fonction, c'est de ultimement nous permettre de retrouver, de rejoindre la société. Le deuil privé nous coupe complètement de la société. On est touché, on n'a plus... On est fermé un peu sur soi, obligatoirement. Et la procédure du deuil, elle vient nous aider à progressivement entrer ou rentrer dans la société. On a besoin d'être d'abord consolé. Bon, ça veut dire... on voit très bien que même des personnes qui auraient divorcé, quand l'ancien conjoint meurt, ça fait quand même exceptionnel, souvent, on sent le besoin de faire quelque chose. Donc, il s'agit d'essayer de se débrouiller pour pouvoir rentrer à nouveau, fonctionner de nouveau dans la société. On est capable, en fait, de compartimenter. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des choses qu'on va faire, des choses, bon, on va se permettre d'entrer dans une partie de la société ou d'avoir certains types de rapports avec les gens dans la société. Bon, alors c'est pas tout ou rien. Progressivement, on entre effectivement dans cette situation, enfin dans cette appartenance à la société. Toute l'idée, c'est d'arriver à ne plus être paralysé par le deuil, en fait. C'est pour ça que le processus de deuil est un processus décroissant. La sévérité elle va décroissant. C'est, à la limite, c'est aussi un jeu, c'est la société elle-même qui vient encore aussi à la rencontre de l'individu qui, lui, est touché, il est un peu paralysé, il faut venir et le recevoir. C'est l'habitude dans certaines communautés, en tout cas, que le premier Shabbat des 7 jours de deuil, l'endeuillé est reçu par la communauté. En général, dans Bri Ve Shalom, la communauté ou le rabbin ou les gens viennent à la rencontre et on accueille la personne endeuillée. Dans le Kourban, dans le deuil consécutif au Kourban, à la destruction du Beth Amikdash, c'est autre chose. C'est autre chose parce que tout le travail du deuil va consister à te mettre dans ton deuil, en quelque sorte. On n'est pas en train d'essayer de t'aider à t'en sortir. Parce que le problème, c'est que la difficulté, elle est d'entrer dans le deuil. On nous demande, effectivement, d'entrer dans le deuil. Et c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce qu'en réalité, le Khurban, qui est donc la raison du deuil, nous ne savons pas vraiment ce qu'était le Beth Amikdash avant. Qu'est-ce que c'était? Et c'est très difficile d'essayer de comprendre quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. On est presque dans la situation où on voudrait essayer d'expliquer la couleur à un aveugle de naissance ou la musique à un sourd de naissance. Bien sûr, la génération de la destruction du Beth Amikdash, eux l'ont vécu. Effectivement, il y a eu des gens qui savaient plus très bien comment faire. Il y en a, certains voulaient dire, eh bien, on va plus manger de viande, on va plus boire de vin. Seulement, voilà Gmara qui discute de ça. Elle dit, mais pourquoi tu manges plus de viande? Parce qu'il y a plus de korbanot. Tu veux plus boire de vin parce qu'il y a plus de libation de vin. Mais dans ce cas-là, tu peux plus manger du pain parce que il n'y a plus non plus les pains qu'on mettait sur le shulchan. Et les fruits, il n'y a plus de bikurim. Donc, on va boire de l'eau. Non, il n'y a plus la libation d'eau à Sukkot. Donc on voit très bien que si on va dans ce sens-là, on n'y arrive pas, c'est impossible, il faut vivre. Et donc il faut arriver à... Eux, ils avaient ce problème-là. Il faut trouver de l'énergie pour vivre. On a demandé au Sfatemet, c'est ce qu'on s'enseigne, mais en réalité, je me souviens qu'on avait demandé la même chose à mon maître. On a demandé effectivement, c'est marqué partout qu'on doit pleurer, etc. Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à pleurer? Je ne peux pas appuyer sur un bouton et pleurer. Enfin, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais le commun des mortels n'est pas obligatoirement capable de le faire. Et c'est peut-être non, pas non plus ce qu'on doit faire. Alors, mon maître l'a répondu de cette manière, mais on raconte ça aussi au nom de Fassemet, comme je vous dis. Donc, ben justement, il faut pleurer sur le fait de ne pas être capable de pleurer. Alors, ça veut dire quoi? Le problème, c'est par quel biais est-ce qu'on peut appréhender ce deuil-là, c'est ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu vraiment? Hachem s'occupe toujours de nous. Hachem est présent, il répond à nos prières, etc. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a évidemment, quand on dit qu'en fait on doit essayer de réfléchir à, bon, on a perdu le Beth Amikdash, mais il faudrait penser comment on fait pour le reconstruire. Alors premièrement, quand il s'agit de parler de reconstruire le Beth Amikdash, le Rambam dit, c'est pas notre problème, ça c'est le problème du Mashiach. Et Rashi dit, c'est pas notre problème, c'est le problème d'Hachem. S'il s'agit de reconstruire, au sens de reconstruire le binyan, le monument en quelque sorte. Et donc, néanmoins, effectivement, on doit construire. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il s'agit de construire réellement? Si ce n'est pas effectivement le binyan, parce que le binyan, c'est jamais qu'un binyan, même si c'était le Beth Amikdash, etc., mais c'est rien d'autre qu'un binyan. Et si c'est un binyan, alors, bon, ça peut être ennuyeux, etc., mais c'est un beau binyan, il y en a peut-être des plus beaux, etc., si on s'occupe d'un point de vue purement esthétique. Il faut revenir, évidemment, il faut revenir à ce que la Torah nous en a dit. La première fois qu'on nous a parlé de cette notion de Beth Amikdash, on parlait de l'ancêtre du Beth Amikdash qui est le Mishkan. Et quand Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan, il a dit au Bnei Israël, je veux que vous me construisiez un Mikdash, c'est-à-dire en fait une construction, un lieu, un espace sanctifié en fait. Mais le Passouk dit un petit peu plus que ça, bien sûr. Le Passouk dit que Hachem a dit à Souli Mikdash, ils vont me faire un espace sanctifié. Et je résiderai parmi eux. Ça veut dire, c'est pas marqué, je résiderai dans le Mishkan. D'accord? C'est bien sûr, Hachem va résider dans le Mishkan, mais dans le texte, on n'a pas de ça du tout. Dans le texte, on a Veshachanti Betocham, c'est-à-dire dans le cœur de chacun. On lui a envoyé le. Elle n'a pas reçu le lien. normal. Vesharanti betocham, je résiderai dans le cœur de chacun. Ça veut dire, à la limite, dans ce verset, on voit bien qu'il faut construire quelque chose, un lieu, un espace, mais l'essentiel, c'est pas du tout de construire cet espace. Ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte qu'Hachem puisse résider dans le cœur de chacun. Et si nous n'avons plus le Beit HaMikdash, c'est qu'effectivement, ce que nous avions au moment où il a été détruit ne satisfaisait pas du tout la condition que cet endroit-là favorise l'intimité en quelque sorte entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Cette intimité, elle est complètement réduite. Elle existe toujours, mais elle est complètement réduite. Donc, en fait, on pleure à cause de cette séparation qu'il y a entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. On pleure pas à cause du Binyan lui-même. La Gemara, dans l'Yerushalmi, elle dit que toute personne, toute génération du vivant de laquelle le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit de son vivant. Ça veut dire la chose suivante. Nous avons l'impression, en tout cas on vit comme ça, hein, la génération qui a vu la destruction du Beit HaMikdash sont des gens qui se sont mal conduits, que ce soit dans le premier Beit HaMikdash avec les Averot Hamurot, ou bien le deuxième Beit HaMikdash avec la Sinat Chinam. Eux se sont mal conduits. Ça a eu comme conséquence qu'on a détruit le Beit HaMikdash. Et nous, on n'a pas suffisamment de mérite pour que le Beit HaMikdash soit reconstruit, pour que le Beit HaMikdash soit reconstruit dans notre génération. Or, ce n'est pas ça du tout que la Gemara dit. Personne ne te demande d'avoir un mérite pour reconstruire quelque chose qui a été détruit. Ce qui nous est demandé, c'est de nous conduire de telle sorte que le Beit HaMikdash ne soit pas détruit. Si le Beit HaMikdash existait devant nous, qu'il ne soit pas détruit par notre conduite. Parce qu'en réalité, le Beit HaMikdash, si on peut parler comme ça, il est sans arrêt, d'une certaine manière, reconstruit, seulement nous le détruisons à chaque fois. Donc il s'agit d'une destruction. On ne te demande pas du mérite pour reconstruire. On te dit, ait suffisamment de force, de mérite pour ne pas détruire le Beit HaMikdash. Donc, ça veut dire que nous devons considérer que nous détruisons le Beit HaMikdash. Que notre conduite détruit le Beit HaMikdash. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Il s'agit de travailler, donc, faire en sorte que le Beit HaMikdash ne soit pas vraiment détruit. A priori, le Beit HaMikdash détruit, pour nous, bien sûr, on peut dire, c'est pour nous le Beit HaMikdash, la référence Beit HaMikdash, c'est le deuxième Beit HaMikdash. Mais en fait, on est aussi dans la situation où le premier Beth Amikdash a été détruit. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais qu'est-ce que nous on a à voir avec les trois Averot, Hamurot de idolâtrie, de meurtre et de Giloui Arayot, d'immoralité, etc. On n'a rien à voir avec ça. Alors en fait, c'est pas si évident que cela. Parce que si on regarde d'un peu plus près notre conduite, on perçoit que Chazal enseigne que Kinatava et Kavod, ces trois midot-là, ces midot, elles correspondent justement le Kavod. Kavod, ça touche le problème d'Avodah Zara. La Tava, bien sûr, c'est Giloui Arayot. Et la Kina, c'est Shfichut Damim. C'est le meurtre. Les Chazal disent que celui qui se met en colère, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Bien sûr, les Chazal ont dit que c'est un comme si, mais c'est vraiment comme si. Or, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à voir avec la colère, qu'on n'a rien à voir avec la kina, avec la tava et avec le kavod. Donc, si on a à voir avec cela, on a donc à voir avec ce qui a entraîné et entraîne donc en permanence la destruction du Beth Amikdash, le premier. La sinat rinam, elle vient de ce que pour la plupart d'entre nous, nous considérons le clan Israël comme étant partagé en deux. Il y a nous et eux. C'est ça. On partage le clan Israël entre nous et eux. Et par conséquent, la relation avec eux, la froideur, l'indifférence qu'on peut manifester à l'égard d'eux, ça c'est sinat chinam. Simplement parce qu'ils sont eux et pas nous. Parce que si j'ai une raison de haïr, même si on n'a pas le droit de haïr son prochain dans son cœur, c'est en soi déjà une avéra. Mais si j'ai une raison, alors c'est plus chinam. Si c'est chinam, c'est je le hais parce qu'il est lui. Parce que, comme le dit le loup à l'agneau, ben finalement, ton existence même me dérange. Eux sont là. Donc il y a déjà. Et alors, en général, on n'a pas obligatoirement une sina, on n'a pas l'impression d'avoir la haine. Mais la haine en question, c'est déjà l'indifférence, ou plutôt, l'indifférence, c'est déjà la haine. Parce qu'on a une obligation de ne pas être indifférent. Le clan Israël forme un tout, et dans ce clan Israël, pour former un tout, il faut bien qu'il ait des relations. Mais dans l'autre shiurim, on avait mis en évidence le fait que ce qu'Hachem a demandé au Bnei Israël pour pouvoir les sortir d'Égypte, c'est qu'ils créent des relations les uns avec les autres. Parce que sinon, il n'y a pas de clan Israël. Donc, il y a une espèce de froideur, d'indifférence à l'égard de eux, c'est eux. Chacun est dans son petit groupe, là. Alors, il est plus ou moins grand, son petit groupe en question. Il y en a pour lesquels, d'ailleurs, l'indifférence, elle s'applique à tout ce qui n'est pas eux-mêmes, c'est tout. Il n'y a pas de groupe, c'est la personne elle-même. Cette indifférence à ce qui arrive à l'autre, Ça s'appelle Sinat Chinam. Et cette Sinat Chinam, elle détruit le Beth Amigdash. En fait, dans le deuil, il y a deux niveaux de deuil en quelque sorte. Il y a un niveau de deuil, on a un petit peu parlé, qui laisse la personne complètement paralysée, épuisée. Et puis il y a un niveau de deuil qui est beaucoup plus vivant, qui est plutôt de l'ordre du ressenti en quelque sorte. Dans ce deuil-là, on ne perd pas de vue qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on le serve de Simcha. C'est-à-dire, il y a du deuil, mais ce deuil n'abolit pas complètement la Simcha. Alors, c'est un deuil personnel. Le premier type, le deuil privé, en quelque sorte. Au tout début, en tout cas, c'est un peu plus difficile. Mais si on y regarde dans le détail, il y a même des moments de simcha qui s'imposent. Alors, la Torah elle va imposer à celui qui est endeuillé par la mort d'un proche, Erev Sukkot, il va enterrer son proche, il va rentrer chez lui, et le soir, il va parler dans sa tfila et dans son kiddush, Yom Simchatenu. Il n'est pas dispensé de la simcha. D'accord, dans les akafot, il va pas danser avec tout le monde, etc. Mais il n'est pas dispensé. On ne va pas dire, non, mais je ne peux pas dire Yom Simchatenu le soir ou ce matin, j'ai enterré mon proche et maintenant je vais dire, quelques heures après, je vais dire Yom Simchatenu. Oui, la Torah te demandait cela. La Torah demande quelque chose ici qui est effectivement difficile à comprendre, mais elle le demande vraiment. Quelque part, la vie, elle exige la simcha. La simcha, c'est l'ouverture. Donc, si ce n'est pas ouvert complètement, c'est la mort. En vérité, ça s'applique en particulier dans le problème du deuil qui nous occupe, là maintenant, le deuil public. En fait, nous partageons le deuil d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, partage le deuil d'Hachem? Comme on a dit, Beshachanti Betocham, Hachem veut résider dans notre cœur. Et nous, nous le conduisons de telle sorte que ça soit quasiment impossible. Et quand on prend conscience de ce qu'on a détruit, là maintenant, il va falloir s'arracher à cette dynamique de destruction, en fait. Il s'agit de redevenir proche d'Hachem. D'accord, c'est le deuil d'Hachem, c'est le fait que il y a une très grande distance avec Hachem, une distance qui s'est installée avec Hachem. Puisque quelque part, nous l'avons chassé de nos cœurs, il n'est pas dans nos cœurs. Pas dans nos cœurs, ça veut dire que le cœur représente ce qui nous dirige. Ce n'est pas obligatoirement la pompe. Hein. Et du coup, les Chachamim, pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit, ils ont fait en sorte que à Tisha B'Av, summum du deuil public, on dit pas de tachanoun. Pas de tachanoun, parce que c'est Yom Tov. Yom Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance avec Hachem, c'est quelque chose qui va nous amener à être encore plus proche de lui, dit Barak. La famille dit, enseigne, que Akadosh Baruch Hu est sur son trône. Il est entouré de toutes sortes de malachim. Akadosh Baruch Hu est très protégé, si vous voulez, une espèce de garde rapprochée, aussi une autre garde moins rapprochée, etc. Et en fait, il se situe très très haut. Mara dans Chagiga, elle nous parle effectivement de cette de ces cieux les uns au-dessus des autres, le Yahalé, comme on voit dans Yahalé Viyavo, tout en haut, hein, le trône divin, etc. Et que pour passer de l'un à l'autre, ça prend 500 ans, etc. Bon. Hachem est, si vous voulez, très très loin, très très protégé, d'une certaine manière inaccessible, en fait. C'est ça le problème, cette inaccessibilité de Hachem. Cette idée que il n'est pas vraiment entré en relation avec lui. Il y a un pasouk qui dit cette chose très importante. Akadosh Baruch Hu dit, parlant de sa relation avec le clan Israël, il dit « Imo anochi betzara ». Akadosh Baruch Hu dit que quand le clan Israël est en galoute, Hachem aussi est en galoute. Quand le clan Israël est éloigné d'Hachem, Hachem est aussi éloigné. Quand nous sommes dans ce Benametsarim, Hachem aussi est dans la même situation que nous. Mais justement, il n'est pas, en quelque sorte, puisque nous ne sommes pas là où nous devrions être, nous sommes en galoute, Hachem est aussi en galoute, c'est-à-dire il n'est pas là où il est normalement. Et s'il n'est pas là où il est normalement, alors quelque part, l'organisation de protection, etc., et les éloignements, etc., tout ça n'est plus du tout aussi efficace. Quand il se déplace, alors bien sûr, il y a toujours une certaine protection, mais ce n'est pas du tout toute la hiérarchie, etc., des malachim, etc., qui sont là. Et par conséquent, dans cette situation-là, Hachem est plus accessible qu'en temps ordinaire, parce qu'il est moins protégé. Et donc, on peut arriver éventuellement à entrer en relation avec lui là où, en temps normal, on n'y arrive pas. Cette situation où Hachem est en déplacement, comme nous, si on peut parler comme ça, Elle a donc commencé Shiva Asar Betamuz. Mais c'est quoi Shiva Asar Betamuz? Il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu à Shiva Asar Betamuz. Mais disons, ce qui est le plus frappant, ce qui, me semble-t-il, a le plus d'importance, c'est qu'à Shiva Asar Betamuz, mon cher Rabbeinu est redescendu du Sinaï sur l'ordre d'Hachem. Et quand il est descendu du Sinaï, il a d'une certaine manière arraché les louchot. Chazal explique que les louchot, elles étaient, vous savez, elles ont six tfachim. Et donc, il y avait deux tfachim dans la main d'Hachem, si on peut parler comme ça, deux dans la main de Moshe Rabbeinu et deux au milieu. Et Moshe Rabbeinu a tiré et bon, il a réussi à attraper les louchot. Donc, il est là et il descend du Sinaï. Et il a les louchot. Et ces louchot, c'est les premières louchot. Alors, vous vous souvenez, on en a parlé abondamment. Les premières louchot et les deuxièmes louchot, c'est écrit dans le pasouk. Hachem a dit, j'écrirai tout ce qui est écrit dans, tout ce qui était écrit dans les premières louchot, je le mettrai dans les deuxièmes louchot. Alors, c'est à la fois vrai et pas tellement évident. Parce que tout ce qui était gravé, ça s'est arrêté. Shiva Asar Betamuz, mon cher Rabbeinu est donc redescendu du Sinaï avec les louchot. Il a pris l'initiative de les briser. Mais cette initiative, il l'a prise parce que les Israël ont fait le vaudor. Donc, si il n'y avait pas eu de vaudor, alors, c'était quoi Shiva Asar Betamuz? C'était le don de la Torah, quasiment. Bon, puisque, du coup, on avait entendu les Aseret HaDibrot à Shavuot, Shiva Asar Betamuz, on reçoit la Torah, la totalité, les louchot, avec tout ce qui est toute la Torah orale. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était vraiment un jour de super fête. Si vous voulez, c'est à la fois Yom Kippour et Simchat Torah. Et en tant que jour décidé par Hachem, rien n'a changé. C'est juste que pour nous, parce que nous avons fait le vaudor, nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à la fête, en quelque sorte. Mais la fête, est, le jour de fête, il est là. C'est un jour de fête, un jour de super fête. Bon, c'est paradoxal, si vous voulez, que ce jour qui était un jour de super fête, il devient le commencement de la période du deuil. À ce moment-là, des brèches, etc. Tout ça, ça peut se dire en termes de vaudor. On a effectivement cette situation de la, d'un moment de fête, d'un moment très important. Donc à l'Israël, un vrai Yom Tov, si vous voulez, un super Yom Tov. Et dans, comme vous savez, au moment du Vaudor, il y a eu un certain changement. On a vu dans un des shiurim de Midrash, je crois, qu'en réalité, au départ, les fêtes, les Chagim, les Moadim, étaient répartis tout au long de l'année. Et quand les Bnei Israël ont fait la faute, alors il y a une grande partie de, enfin, disons, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout ça, ça a été rapatrié, c'est rabattu sur Tishri. Mais Shiva Asar Betamuz, c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, parce que tout commence avec le don de la Torah. Tisha B'Av, c'était Yom Kippour. Donc, ça a bougé à cause du Vaudor. Mais ces jours-là, ils sont porteurs. Ils sont quand même ceux qu'ils ont été, tels qu'ils ont été définis par Hachem au départ. En fait, c'est peut-être une remarque un peu en passant. Le Beth Amikdash, on dit, le Beth Amikdash a été détruit. Tisha B'Av. Et on est parti, on est en. Là, Israël est en galoute. Mais en fait, quand les Romains ont détruit le Beth Amikdash, ils ont détruit le Beth Amikdash plutôt comme justement pour eux un monument, une forteresse, si vous voulez. C'était quelque chose de purement politique et pas religieux. On a pu, après cela, on a pu continuer de pratiquer la Torah. Ils n'ont pas empêché la pratique de la Torah. Là où ça s'est gâté, c'est 65 ans après, il y a eu Bétar. Et Bétar, ça c'est la suite de Bétar, c'est une catastrophe, c'est la catastrophe. En ce moment, les Romains décident, ils ont compris que c'était une révolte contre eux vraiment. Et donc, à ce moment-là, après Bar Korba, donc, ils ont décidé d'écraser, d'humilier Eretz Israël et le peuple juif. C'est à ce moment-là que la fameuse Judéa Capta s'appelait Palestine et qu'on change le nom de Yerushalayim aussi, comme une ville dédiée à Jupiter, etc. Ça, c'est la suite de Bétar et pas du Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. Et en fait, une fois par an, les Romains permettaient au Bnei Israël, ce jour, justement, une fois par an, c'était justement ce Tisha B'Av, de faire le tour d'Yerushalayim, les murailles de Yerushalayim. Et il y a, paraît-il, à Yerushalayim encore un minag, certains qui font le jour de Tisha B'Av le tour d'Yerushalayim. Donc, quelque part, si vous voulez, la catastrophe, elle est, bien sûr, la destruction du Beth Amikdash, c'est une catastrophe, mais disons, en tout cas pour le galout du clan d'Israël et pour tout le mal qui a été fait à Yerushalayim, et que ce soit politique et religieux aussi à ce moment-là, c'est la suite de Bétar. Donc, on a vu que ce jour de Shiva Asar Betamouz était le commencement du deuil, mais aussi, ça correspondait à un moment de grande simfa, c'est un jour de fête, super fête. Comme si c'est justement parce que c'était un moment tout à fait privilégié que quand on ne l'a pas vécu comme il fallait, alors ça a eu des conséquences gigantesques. Le clan d'Israël, dans sa totalité, le jour de Tisha B'Av, on dit des quinotes, des lamentations. Chez l'Ashkenazim, en tout cas, il y a énormément de ces quinotes qui sont l'œuvre de Rabbi Elazar HaKalir. On ne sait pas exactement qui il était. Certains disent que c'est le 7e siècle. Je ne sais pas exactement. Ils disent que c'est éventuellement même un Tana. Il y a toutes sortes de hypothèses. Et il a 45 keynotes pour la matinée. Mais ce même Kalir, qui est un génie, bon, vous regardez les poèmes qu'il a écrits, en fait, il a aussi écrit 45 nechamot pour l'après-midi. D'accord? Ça veut dire il y a les lamentations du matin et les consolations de l'après-midi. Il a composé la même chose. Donc, quelque part, il y a tout de suite, dans le clan d'Israël, parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre sans la simcha, il y a toujours cette idée que même le jour du deuil, ce jour du grand deuil du clan d'Israël, dans l'après-midi déjà, après Hatzot, on allège le deuil et on prépare certains l'habitude de nettoyer la maison parce qu'on va recevoir le Mashiach, peu importe. Enfin, en tout cas, on sort de cette période de deuil complet, paralysante en quelque sorte, qui est pratiquée jusqu'au matin, jusqu'à Hatzot. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est pas comme on a vu. C'est pas vraiment la destruction du Binyan Bet Hamikdash. C'est la destruction du Bet Hamikdash dans la mesure où il représente la présence de la Shrina dans le monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est ça. Ça veut dire la Shrina, Hachem désire en fait. C'est la volonté d'Hachem. Il désire être dans le monde, ça veut dire être reconnu dans le monde. Il y avait un signe extérieur de cette reconnaissance, mais qui a été d'une certaine façon abîmé parce que ce Beth Amikdash, qui, je vous rappelle, n'était là en vérité que pour aider à ce que la présence divine soit là dans le cœur des Bnei Israël. Finalement, ce Beth Amikdash, il est devenu un temple. C'est-à-dire, c'est comme si le service d'Hachem était réduit maintenant à un endroit bien précis. Tu veux qu'on t'apporte des korbanot, on va te les amener. Les korbanot, ils les ont amenés, hein, même quand ils se conduisaient mal, les Bnei Israël. Mais les korbanot, on amenait les korbanot qu'il fallait amener. Le fonctionnement du Mikdash, du Beth Amikdash, il a été assuré jusqu'au bout. Mais c'est Hachem qui dit, mais j'ai rien à faire de ce cinéma que vous faites, quelque part. C'est rien du tout. C'est vrai que c'est presque une honte de venir apporter des corbanotes, comme si on disait à Hachem, OK, j'ai payé ma cotisation, maintenant je peux faire ce que je veux à l'extérieur. Et ça, Hachem, les Nevi'im ne manquent pas de le rappeler au Bnei Israël que c'est pas, que c'est très grave et que c'est pas ça du tout qui leur a été demandé. Alors, pour bien montrer, si vous voulez, la présence d'Hachem, malgré la destruction du Beth Amikdash. Alors, il y a des psukim qu'on peut lire de plusieurs manières. Chazal lise un des psukim de début de Echa. C'est marqué Kol Rodfeha Isigua Ben Amtsarim. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont poursuivi le clan d'Israël ont réussi à l'atteindre dans cette période-là. Alors, bien entendu, il y a, essentiellement, ça va être appelé Kabbalah, mais en fait, c'est une dracha, hein? Le mot Rodfeha, on peut le scinder en deux, en Rodef, K, Rodef Yudke. Yudke, c'est un nom divin, d'accord? C'est le nom le plus court des noms divins. Et le pasouk, à ce cas-là, il se lit tous ceux qui poursuivent Hachem. Pendant cette période de Ben Amtsarim, ils vont le retrouver, ils vont réussir à l'atteindre, comme on a dit. À ce moment-là, il est beaucoup plus facilement atteignable parce qu'il n'est pas protégé avec la garde et la surgarde, etc., de ces myriades d'anges de toutes sortes. C'est-à-dire ce moment-là, qui est un moment où, d'un côté, le verset dans Echa, tel que Yirmiya l'a dit, ben, il est riche. Comme toujours, Chazal vont venir et ils vont prendre le verset et ils vont lui faire dire quelque chose qui, a priori, n'est pas cohérent avec tout le reste du texte dans lequel se trouve ce verset. Mais le verset est quand même là, il est là et il est audible de cette manière. Si c'est ceux qui veulent vraiment atteindre Hachem, qui le poursuivent vraiment jusqu'à l'atteindre, Bela Metsarim, ils pourront l'attraper. C'est-à-dire, justement, dans ces trois semaines, il est atteignable. Hachem est toujours là, ça veut dire. Il faut le chercher. Si tu le cherches sérieusement, tu peux l'obtenir. Il est accessible, en vérité, même si, en fait, ça a l'air des fois très, très difficile. Mais Hachem répond à celui qui l'appelle Emetz, qu'il appelle en vérité, pas quelqu'un qui l'appelle sans vraiment s'investir. Le problème, ça nécessite un investissement, c'est-à-dire en fait, il faut que ça marque, que ça vienne du cœur en quelque sorte, que ça corresponde justement à ce qui est dit sur ce Mikdash, Mishkan, qui est là pour que Hachem, qu'on veille à ce qu'Hachem réside parmi nous, c'est-à-dire que effectivement on prenne nos décisions, on se conduise en tenant compte que voilà, on est Hachem est avec nous, et donc du coup ça nous crée des obligations. On ne peut pas faire comme si Hachem n'était pas présent. Hachem est là, il est accessible, mais il est là et donc ça nous oblige en quelque sorte. Alors maintenant, cette idée que Shiva Asar, terminer que Shiva Asar Betamuz, c'était un moment de fête en réalité. Et qui a été contrarié par le Vaudor. En fait, quand Aaron a dit, sous la pression d'Ebné Israël, il a décidé qu'il allait effectivement fabriquer ce fameux veau d'or, et il a dit « Chag l'Hachem Machar » « Demain, fête pour Hachem, la fête pour Hachem. » C'est-à-dire que ce qui lui a été reproché à Aaron, c'est que quand ils ont dit « on veut faire un veau d'or », il n'a pas dit non. Il a dit « mais demain, fête pour Hachem. » Vraisemblablement, Aaron pensait, bien qu'il ne l'aurait pas dit explicitement, il pensait que d'ici là, Moshe Rabbeinu sera là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là, mais il sera là demain. Donc, il a voulu gagner du temps. Mais ça n'a pas marché parce que les Israël étaient tellement excités. Ils ont arraché, comme on sait, les bijoux des femmes, etc., pour lui fournir l'or qu'il demandait. Et c'est allé beaucoup plus vite. Donc, le veau d'or a été fabriqué alors que Moshe était encore sur le Sinaï, il n'était pas encore descendu. Mais quand Aaron dit « Chag l'Hachem Machar », Aaron, ce n'est pas un monsieur qui dit des choses comme ça au hasard. S'il le dit, c'est un avis, il est un prophète, la chose va se réaliser. Effectivement, la réalisation aura lieu, c'est Tisha B'Av. Ça veut dire quoi? Il a dit pourtant Raglachem Machar. Les Chazal disent Yesh Machar. Il y a un Machar qui est le lendemain, vraiment demain. Et puis il y a un Machar qui veut dire Lachar Zman. Yoter Meuchar, plus tard. Et donc, il a dit, il y aura une fête pour Hachem plus tard. Alors bien sûr, elle a eu lieu cette fête. Cette fête, elle a lieu seulement nous, on ne peut pas la vivre comme fête. C'est un moed, on ne va pas dire tachanoun. Mais bon, on ne danse pas, a priori, de joie à Tisha B'Av. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui dansent, mais bon. Donc, c'est ça, c'est... Effectivement, les choses sont vraies. C'était prévu ce grand jour de Shiva Asar Betamuz, de Tisha B'Av, qui sont des jours de fête et qui ont été assombris et qu'on ne vit pas effectivement comme des jours de fête, comme si on était puni, nous, de ne pas pouvoir participer à la fête. Alors, je voudrais juste ajouter la chose suivante. C'est un mot de Halakha, ça veut dire que ce soir, pour faire la Havdalah, on peut faire Havdalah avec du vin ou avec de la bière ou avec autre chose. La Havdalah, elle est très courte, c'est seulement ou Boré Priya Geffen ou bien chez Akol, selon qu'on a pris, plus la bracha de Hamavdil, mais il n'y a ni bougie, ni besamim. Si quelqu'un doit manger, il ne faut pas qu'il oublie, il faut faire Avdala, là aussi sans les besamim et sans la bougie. Alors on fait Avdala si on doit manger, par contre on ne fait pas Avdala si on doit prendre un peu d'eau pour avaler un médicament. Et puis, cette année, comme c'est décalé, alors à la nuit, tout est permis, sauf le vin en dehors de l'Avdala et la viande. Pardon ? Pour les Ashkenazim. Bon. Tout le monde, pour les besoins de la cause, il peut devenir Ashkenaz, si ça permet. Alors, alors, de façon étonnante, d'ordinaire, le lendemain de Tisha B'Av, la limite, c'est midi. Mais là, c'est le matin. C'est-à-dire que les Ashkenazim, s'ils veulent manger un petit déjeuner au poulet ou à la viande, etc., ils peuvent le faire dès le matin. C'est possible. Le problème de la musique, c'est une marcoquette. En général, on est marmir. Jusqu'au matin, il faut attendre le matin. Donc, je crois à 6 heures du matin, je vais commencer le concert. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de Ta'anit. Bonne tour.